De Valéry Giscard d'Estaing, j'ai le souvenir d'un moment d'importance à la télévision. C'était à la veille de l'élection présidentielle qu'il allait gagner. J'avais eu la charge de l'interroger pour le dernier entretien de la campagne. J'y fus impertinent, ce qui lui permit d'être incisif. Il fut ensuite mon invité à la radio. J'ai toujours apprécié son intelligence. Je m'étonnais simplement alors d'une suffisance qu'il a su aujourd'hui totalement gommer. C'était en 89.
Nous voici donc à 17h06, ici au Jardin des Tuileries, et je dois dire qu'il y a autour de nous beaucoup de monde, alors que Radioscopie, c'est plutôt un personnage, et en face de ce personnage, moi, heureusement. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais il est bon, dès le départ, d'être précis. Les Européennes, au cours de ces 60 minutes, ne seront pas mon principal centre d'intérêt. J'ai plutôt des curiosités pour l'homme que vous êtes. Il me semble que vous avez épuisé tous les pièges du pouvoir. Vous avez été ambitieux, puis installé au sommet, et puis en 1981, détrôné. Vous avez tout connu, les honneurs, les succès, la défaite, les blessures, l'éloignement. Et j'ai le sentiment, parce que je vous ai vu ces jours derniers à la télévision, j'ai l'impression que vous avez gagné la chose la plus rare, peut-être, la sérénité.
Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise, là ?
D'abord, si c'est vrai.
Ben, si c'est vrai, ça se voit, ou puisqu'on est à la radio, ça s'entend.
Oui, mais vous devez aussi le ressentir, vous.
On n'est pas très bon juge de soi-même. Je trouve qu'il ne faut pas se livrer trop à cet exercice. C'est les autres qui vous jugent. Bon, est-ce qu'on atteint la sérénité ? Oui, je pense, dans une certaine mesure. Et pourquoi, à l'heure actuelle, plus de sérénité qu'il y a quelque temps ? Vous nous avez dit, nous n'en avons pas beaucoup parlé de cette campagne des Européens. On va en parler un petit peu tout de même. C'est une campagne qu'on ne fait pas pour soi. Et je crois qu'on acquiert la sérénité dans la vie, dans beaucoup d'activités, à partir du moment où on fait moins les choses pour soi. Quand on les fait personnellement, si vous voulez, on est tendu parce qu'on a son ambition, son désir de réussir, on se sent très impliqué, on est très sensible aux critiques. À partir du moment où c'est moins pour soi, on a davantage de sérénité. Mais je vous dirais franchement, c'est pas la peine d'en parler longtemps parce que si on l'a, les gens le sentent. Oui.
Vous le pensez ? Alors, à l'heure de vérité, qui a été le dernier banc d'essai, là, le plus récent en tout cas, vous avez eu l'impression d'être tout à fait vous-même ?
Oui.
De passer, de faire passer votre image, car à un certain moment, vous êtes inquiété de l'image que vous aviez.
Vous voulez dire pendant cette émission ou avant ?
Avant ?
Oui, avant, mais c'est très difficile, si vous voulez. Ça, c'est un vrai problème, même si on est sincère, quand on est sincère. Est-ce que les gens vous voient comme on est ? Ça n'est pas sûr. Parce qu'il y a tellement de préjugés, il y a tellement d'arrière-pensées, il y a tellement de procès d'intention. Par exemple, quand vous êtes président de la République, les gens ne vous voient pas. Ils voient le président de la République. Et après, ça vous dit, tiens, vous avez l'air plus naturel que le président de la République. Oui, parce que soi-même, on n'est pas totalement identifié au personnage. Donc dans ce problème de communiquer, si vous voulez, il faut bien voir que ce n'est pas uniquement le fait de ne pas être capable de communiquer. C'est le fait qu'objectivement, il y a des difficultés.
Il ne fait pas de doute, Valéry Giscard d'Estaing, que vous avez éprouvé la solitude, ayant vraiment eu tous les pouvoirs. Vous avez, dans la continuité, peut-être cultivé une certaine forme d'indifférence. Et je ne veux pas dire que c'était bien que vous soyez défait. Mais je me demande si cette défaite n'était pas nécessaire à votre propre vie, comme elle est nécessaire à beaucoup de vies. Je veux dire que les défaites, parfois, permettent de faire le point.
Ben, je vous remercie. Bon, non, d'abord, de toute façon, dans des fonctions comme celle-là, il ne faut pas penser à soi. Il faut se dire, est-ce qu'un changement était souhaitable pour la France, oui ou non ? Ça, c'est la vraie question. De savoir s'il fallait changer la France pour améliorer quelqu'un, c'était quand même, c'est pas le vrai problème. Bon, est-ce que la France avait besoin d'un changement ? C'est une grande question. Bon, est-ce que ce changement impliquait un changement de président ? Grande question. On peut dire oui. On peut se dire aussi que peut-être la continuité avait d'autres mérites, si vous voulez, que pour traverser une situation de crise, pour affirmer la situation de la France, qui est tout de même un pays qui a des problèmes à tenir son rang dans le monde, la continuité avait tout de même un avantage. Mais sur le plan personnel, alors égoïstement, vous avez raison de dire qu'il faut que dans la vie, il y ait des hauts et il y ait des bas. Parce que S'il n'y a pas de bas, on ne comprend pas les autres, en fait. C'est bizarre, hein ? Mais le succès ne vous aide pas à comprendre les autres. En tout L'échec cas, vous facilite une certaine compréhension, parce que je crois que, finalement, les êtres communiquent par leurs difficultés, ils ne communiquent pas par leur succès.
Vous ne craignez pas d'avouer que vous avez été blessé en 1981, et vous avez même dit l'autre soir une blessure personnelle et un sentiment d'injustice. Alors moi, je voudrais... Blessure personnelle, ça se comprend. On est blessé lorsqu'on échoue et qu'on a l'impression d'avoir bien fait son travail. Mais alors, cette petite phrase... Un sentiment d'injustice. Vous pensez donc les Français ne savent pas ce qu'ils font. C'est à peu près cela.
Oh, ben, n'exagérons pas. Non.
Oh, ça y ressemble. Mais...
non. D'abord, j'ai dit quelque chose d'un petit peu plus précis. J'ai dit que j'en ai gardé une blessure. C'est pas sur le moment. C'est pas. C'est quelque chose qui dure, qu'on garde, que j'ai encore aujourd'hui. Et je vais donner deux explications. Une explication qui était l'âge, parce que tout ceci s'est passé pour moi à un âge très jeune. Bon, j'ai été élu à 48 ans, j'étais battu à 55 ans, c'est-à-dire c'est les grands moments de la vie intense. Donc on ressent naturellement les choses très fortement. Et le sentiment d'injustice, ça n'a pas été l'échec, parce que je suis, comme vous sûrement, respectueux de la démocratie. D'ailleurs, on est ici dans un bâtiment élevé pour la commémoration du bicentenaire. C'est la moindre des choses d'être respectueux de la démocratie et du choix. Donc le fait que les Français aient décidé de choisir un autre président, ça ne m'a pas du tout blessé, pas du tout. Non, c'est après la présentation caricaturale de ce que nous avions accompli pendant 7 ans. Pendant toutes les années suivantes, on a entendu dire aux Français qu'ils avaient été mal gouvernés, que nous avions voulu agir pour nous, qu'on avait pris... On ne s'était pas du tout... On n'a pas compris ni les besoins des gens, ni les grands intérêts de la nation. C'était cette destruction caricaturale d'un travail accompli pendant 7 ans, avec bonne foi et bonne volonté, que j'ai ressenti comme une injustice.
Mais vous ne pensez pas que c'est la loi des idéologies ? Forcément, lorsqu'on est au pouvoir, on est totalement critiqué par l'opposition. Et puis, lorsque vient le temps d'entrer dans l'opposition, on critique également facilement le pouvoir. C'est peut-être la loi de nos mondes dits de liberté. Et il faut passer par là.
On peut le faire d'une manière ou d'une autre. Et regardez, par exemple, à l'heure actuelle, par rapport au président de la République en place, nous ne le pratiquons pas de cette façon-là. Bon, c'est vrai qu'il y a des critiques, c'est normal. Mais il n'y a pas cette attitude de détruire tout ce qui est entrepris, tout ce qui a été fait, d'en donner une vision qui était caricaturale. Voilà. Et je crois qu'en effet, bon, la vie politique, c'est un combat, comme la vie économique, c'est un combat, comme la compétition sportive. Tout ça, c'est des combats, mais ils peuvent être menés avec des règles du jeu différentes. Et je suis partisan d'avoir toujours le respect de l'adversaire.
Valéry Giscard d'Estaing, vous avez été président de la République, c'est vraiment le sommet du pouvoir. Lorsqu'on est à ce poste, on l'est pour soi-même ou on l'est vraiment pour la France ? Mais là, en toute franchise, on représente un pays où on a le sentiment qu'on est en fait arrivé à l'altitude suprême de toutes les ambitions.
On le fait pour la France.
Vraiment ?
Oui.
Et on ne pense plus à soi-même ? Ou on représente la France et on finit par croire qu'on est la France ?
Non, mais ça, c'est autre chose. Probablement, il y a cette espèce de travail intérieur qui se produit. Mais vous posiez une question à laquelle il fallait répondre par oui ou par non. Oui. Vous dites, est-ce qu'on le fait pour soi, est-ce qu'on le fait pour la France ? Moi, je vous réponds carrément, on le fait pour la France. Je suis persuadé, d'ailleurs, que mon prédécesseur, le président Pompidou, qui a été, comme vous savez, très gravement malade à la fin de sa vie, et qui donc a connu la dernière année de sa présidence en étant atteint par la maladie, ben, il le faisait pour la France. Alors bien sûr, il y a une implication personnelle, mais ce n'est pas votre premier motif.
Alors vous avez sans doute, comme tout le monde, fait des fautes de parcours. Ces fautes de parcours sont individuelles. Vous les reconnaissez aujourd'hui ? Vous avez l'impression que si vous aviez agi autrement, que vous auriez pu gagner ? Ou bien c'est parce que c'est dans l'air du temps ?
Il y avait deux choses. On va parler des fautes de parcours. Non, il y avait deux causes, même plusieurs, causes de changement. Il n'y avait pas eu de changement politique en France depuis très longtemps. Puisque ça faisait pratiquement 23 ans que la France était gouvernée par la même majorité. Et nous sommes un pays qui aime le changement. Il n'y a qu'à regarder la mode. Il n'y a qu'à regarder les gloires éphémères, les gens dont tout le monde parle. Puis 2 ans après, plus personne n'en parle. Je pourrais citer des noms à l'heure actuelle. Donc 23 ans, ça, dans la culture française, ça appelait un changement. Deuxième raison, la crise économique. L'année 1980, ça a été la plus mauvaise année de l'économie mondiale et de l'économie française. Vous vous rappelez très bien, augmentation très forte du chômage, augmentation très forte des prix. Mmh. Donc il y avait des causes objectives de mécontentement. Et quand les gens sont mécontents, ils veulent un changement. Donc ça, c'était des causes objectives. Et malgré cela, nous avons failli gagner à quelques centaines de milliers de voix. Donc ça prouve tout de même qu'il y avait une France qui entreprenait et poursuivait quelque chose. Alors, défaut de parcours, bien sûr, mais je voudrais vous renvoyer à mon livre. Parce que vous l'avez posé sur la table, ça c'est sympathique, mais je ne suis pas sûr que vous l'ayez lu. Parce
je l'ai lu, je l'ai lu.
Sinon, vous ne me poseriez pas cette question.
Oui, mais les autres ne l'ont peut-être pas lu, et vous devez répondre à cette question.
Voilà, non, mais
parce qu'il ne faut jamais faire référence à un livre. Il faut pouvoir répondre à la question directe.
Bien sûr. Non, mais je veux dire, on répond mieux, parce qu'on analyse un petit peu, on explique les choses. Donc, la difficulté, d'abord, si vous voulez, je crois que sur certains sujets, j'ai voulu aller trop vite ou trop en avance, appelez ça comme vous voudrez. Hein. Parce qu'au fond, j'étais un homme de changement. J'appartiens aux catégories des personnes qui s'intéressent au changement. Regardez par exemple, à l'heure actuelle, il y a un changement en Union soviétique, tout le monde sait que ça m'intéresse. Un changement en Chine, ça m'intéresse. Et je pensais que la France devait changer plus vite. Qu'elle avait du mal à entrer dans le monde moderne, qu'elle avait encore des mœurs, des habitudes qui appartenaient à un certain passé, enfin passé du début de ce siècle, et qu'il fallait, au fond, la faire changer. Alors certains de ces changements ont choqué. Les gens se sont dit, pourquoi veut-il changer? Pourquoi veut-il tout remuer? Etc. Ça, c'était un premier problème. Jusqu'à quel point faut-il aller trop vite? Et faut-il au contraire rester un peu plus près de ce que les gens considèrent comme le rythme normal d'évolution et de changement?
Alors je cite des exemples.
Pour certains, je suis allé trop vite. Mais pour certains, je suis allé trop vite. Pour l'ensemble du pays, non. Rappelez-vous par exemple, il y a des jeunes dans la salle. Plus personne ne se souvient qu'en 1974, les jeunes n'avaient pas le droit de vote. Et dès mon arrivée au pouvoir, j'ai proposé qu'on leur donne le droit de vote. Scandale. Et on m'a dit, comment vous allez donner le droit de vote à des gens qui ne voteront pas pour vous? Je dis, c'est pas la question. La question est de savoir, est-ce que dans une démocratie moderne, les jeunes Américains votent à 18 ans, les jeunes Allemands votent à 18 ans, les jeunes Français votent à 21 ans? Très bien, ils vont voter à 21 ans. Le milieu politique me l'a reproché. Alors pourquoi faites-vous ça? Il valait mieux, puisque les jeunes ne votaient pas pour vous, ne pas leur donner le droit de vote. Et ainsi de suite. Nous avions une série de législations qui étaient en retard et qu'il a fallu adapter. Et puis je pensais que nous devions, sur le plan de nos relations extérieures, de la place de la France dans le monde, aller plus vite. Alors j'ai pris des tas d'initiatives. Le dialogue Nord-Sud, c'est une initiative française. Hein. L'accélération de l'union de l'Europe. Et là aussi, il y a des gens qui trouvaient qu'on allait un peu trop vite. Alors première faute de parcours. Deuxième faute de parcours, ce qui est beaucoup plus difficile, j'ai mal réagi aux critiques.
Hein. C'est bien de le dire.
Oui, mais vous posez la question.
Mais les hommes politiques ne reconnaissent jamais leurs fautes.
Ah bon?
Vous n'êtes pas d'accord avec moi là-dessus? La preuve, vous réagissez aujourd'hui.
Non, mais là, je vous dis ce que je pense. Vous me faites venir pour une radioscopie.
Oui.
Oui, j'ai mal réagi aux critiques, parce qu'elles me blessaient. Et au fond, c'est une erreur. Je crois qu'il faut les endurer de façon plus pacifique, en fait. Ne pas trop réagir, se dire ça fait partie de la vie générale. Au fond, il y a une espèce de droit à la critique, même perfide, en fait. Et quand on est blessé, on réagit mal. On est trop sensible, on se braque, on se coince, en fait, et on réagit pas bien. Et à l'heure actuelle, j'ai compris que, bon, il fallait accepter ça, que ça avait d'ailleurs moins d'importance que je ne le croyais.
Valéry Giscard d'Estaing, vous parliez à l'instant de l'Union soviétique et de la Chine. L'Union soviétique, un peuple ne s'est pas révolté, mais un homme, Gorbatchev, fait une réforme. En Chine, des jeunes se révoltent, mais le pouvoir reprend vraiment la direction des affaires. Alors comment peut-on faire la liaison entre ces deux grands continents? Et êtes-vous optimiste pour l'avenir?
Bon, y a un trait commun aux deux évolutions en Union soviétique et en Chine. C'est tout de même la fin de l'idéologie communiste.
Voilà.
Voilà les deux énormes pays, l'un à 1,2 milliard d'habitants. Vous savez qu'ils se sont trompés dans le dernier recensement.
Ils se sont trompés de combien?
100 millions.
100 millions, ben voilà.
Oui. Le dernier recensement a eu lieu, je crois que c'était, on l'a annoncé, c'était le 14 avril. Ils avaient prévu une grande fête pour annoncer les résultats du recensement. On a annoncé 1,1 milliard. Et puis on a refait les comptes, et c'était 1,2 milliard.
On n'est pas tout à fait sûr.
C'est-à-dire que l'erreur représente à peu près deux fois la population de la France. L'erreur, hein. Bon, et l'Union soviétique, énorme puissance qui va de la frontière polonaise jusqu'à l'océan Pacifique. Et au fond, ces peuples croyaient que leur sort serait amélioré par le communisme, que c'était un bon système, et qu'ils s'épanouiraient dans le communisme. Et ils y renoncent tous les deux. Comme une histoire formidable. quand vous regardez les déclarations des dirigeants dans leurs détails, parce qu'il faut lire ce qu'ils disent, hein, on ne parle plus du communisme. C'est fini. Et on reconnaît très ouvertement les échecs du système et la nécessité d'un changement. Alors, ils ont choisi deux approches différentes. En Union soviétique, ils ont commencé par l'approche politique, ce qu'ils appellent la glasnost, qui veut dire la transparence, qui est assez réelle. Il y a à l'heure actuelle une transparence en Union soviétique. La presse s'exprime assez librement. Je vous cite un exemple. Nous sommes allés avec Adémon en Union soviétique au mois de janvier. Et elle participait à un petit colloque qui était assez restreint sur la liberté religieuse en Union soviétique. Et on l'a interviewée à la fin. Elle a donné un interview. Cette interview est passée en direct sur toutes les télévisions soviétiques. Et c'était le soutien des chrétiens d'Occident apporté aux chrétiens de Russie. Imaginez que maintenant ça passe en direct sans aucune censure, c'est quand même la transparence. Et l'autre aspect, ce qu'ils appellent la perestroïka, c'est-à-dire le changement. Alors, ils ont fait des élections, ils ont maintenant le nouveau congrès des députés du peuple qui s'est réuni. Vous avez vu les séances. Des séances assez vives, avec des débats, des insultes, on vote contre.
Retransmise en direct. Que je suis très souvent, puisque j'ai la chance d'avoir la télévision soviétique en direct, dont je le vis.
Mais je croyais que c'était illégal de capturer les ondes.
Tout. Ça. Dans un bureau de télévision, en antenne 2, nous avons toutes les possibilités.
Ah bon, parce que je croyais que la soucoupe n'était pas encore...
C'est la nôtre, c'est très bien en place. Bon. Ça nous permet de surveiller, vous savez. De veiller, en tout cas.
Bon, enfin, donc vous voyez, ces débats en direct sont tout de même très extraordinaires. Ce qui fait qu'il y a un changement qui a deux caractéristiques. Il est politique et il est piloté par les dirigeants soviétiques. Par contre, du côté économique, pour l'instant, l'économie soviétique est en panne, avec probablement même une baisse du niveau de vie à l'heure actuelle, une certaine augmentation du chômage et une inflation. Alors les Chinois, ils ont fait tout à fait autre chose. Les Chinois qui sont au pouvoir à l'heure actuelle, c'est-à-dire Deng, Li, ce sont des communistes de la vieille garde. Nous nous trompons. Allez, vous interrogeriez des Français, le public si sympathique est là, vous leur diriez Deng, il dirait, mais c'est un libéral. Pas du tout. Deng est un communiste orthodoxe de la vieille garde, mais qui a compris qu'il fallait transformer l'économie chinoise, que c'était une impasse, le système de la collectivisation forcée, notamment des terres, et qui a entrepris depuis à peu près 10 ans un changement économique qui a d'ailleurs donné de grands résultats. Parce que quand vous allez en Chine à l'heure actuelle, vous voyez la vie quotidienne, il y a un changement. Les gens vivent mieux, s'habillent complètement différemment, et il y a dans le sud de la Chine ou dans les régions côtières une activité impressionnante. Tout à fait impressionnante. Par contre, ils n'ont pas changé les institutions politiques. Alors les étudiants, c'est donc deux évolutions tout à fait différentes.
Ils ont perdu d'abord les étudiants, à votre avis, ou ils vont revenir à l'assaut ?
Moi je crains qu'ils ne les aient perdus.
Et vous craignez donc peut-être un commencement de tragédie ?
Non, j'espère que non. Non, il y a des signes de modération. Vous avez vu, il y a quand même des signes de modération. D'ailleurs, c'est un pays qui a toujours été très habile dans certaines de ses façons de voir. Mais ça veut quand même dire qu'on va rester au sein d'un régime autoritaire. Et d'un régime autoritaire coupé des aspirations de la jeunesse et, à mon avis, d'une partie de la population. Donc au lieu d'avoir un régime autoritaire qui finalement représente le désir majoritaire de la population, moi je crois que ça ne sera pas le cas et qu'il y aura donc d'autres causes de tension. Vous savez que c'était une lutte qui était déjà en cours. On l'a vu apparaître à cause des manifestations d'étudiants, mais il y avait déjà un débat et qui était entre deux personnages curieux. L'un était le secrétaire général du Parti communiste chinois, qui s'appelle le PCC, et c'était le plus libéral. Et le Premier ministre, qui autrefois n'était pas un personnage très important en Chine, et qui est le plus autoritaire. Et je connais bien M. Zhao Ziyang, qui est le Premier ministre, l'actuel secrétaire général du Parti, et qui est un homme qui avait très bien réussi dans une province. Cette province, c'est le Sichuan, qui est donc à l'ouest de la Chine, et dont est également originaire Deng. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des espèces de recoupements, en somme, d'origine dans ce débat. Et finalement, il m'avait donné l'impression d'une sorte de Gorbatchev chinois. Et finalement, ce n'est pas lui qui a pris le dessus, parce que c'est la machine puissante du parti qui finalement a gagné à l'heure actuelle. Probablement, néanmoins, ça va ouvrir un débat à l'intérieur du système, et j'espère que ce débat aboutira à une évolution.
Monsieur le Président, vous avez été séduit par Gorbatchev. En tout cas, vous l'avez dit. Vous l'avez fait comprendre.
Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par séduire ?
Si, il vous plaît ce personnage. Donc le Parti communiste français devrait, dans le même temps, vous aimer en se disant « mais il nous a compris ». Ben ou non, alors, moi, je ne comprends plus rien.
Je ne suis pas sûr que le Parti communiste français aime Gorbatchev. Non, voilà.
C'est ce que je voulais vous demander.
Il le trouve un peu gênant, un peu encombrant. Pas non, quand vous rencontrez Gorbatchev, je ne sais pas si vous l'avez vu à un de ses passages, vous allez le voir, parce qu'il va venir en France les 5 et 6 juillet. Je pense qu'il aura beaucoup de contacts et que vous aurez l'occasion de le voir. Il faut voir comment il est. C'est un homme qui a une extraordinaire présence. Et vous savez que dans à l'heure actuelle, en relations publiques, les Américains vous disent ce qui est le plus important, c'est le eye contact, le contact de l'œil. Alors, regardez les gens. Et quand on est avec lui, il regarde tout le monde. Et vous sentez qu'il vous regarde, qu'il vous voit individuellement, qu'il voit vos réactions, etc. Donc, une extraordinaire présence et un très grand contact. En même temps, beaucoup d'audace. Parce que tout de même, avoir annoncé ce qu'il a annoncé sur le plan militaire, dans un pays dans lequel la principale structure était tout de même l'armée, avec d'énormes moyens, d'énormes capacités. Hein. Il fallait extraordinairement d'audace. Et finalement, il tient son programme.
Valéry Giscard d'Estaing, je vous regarde, je vous écoute. Je m'aperçois que vous aimez, vous aussi, à regarder les gens qui vous entourent. Vous avez vraiment cette élégance, cette convivialité. Vous l'aviez lorsque vous étiez président de la République, ou vous avez vraiment changé? Ou plutôt, le poste de président de la République vous condamne-t-il à être dans l'éloignement, loin des gens?
Non, il ne vous condamne pas à ça. Mais la difficulté pour moi, c'est que lorsque j'étais président, la France était en bataille. Alors, on ne s'en souvient plus. Il faut relire les textes. Le langage politique était très violent. Hein, et les critiques que l'opposition nous adressait étaient en termes très vifs. Hein. Et quand vous êtes au milieu d'une bataille où la moitié des gens sont contre vous, ben, vous ne vous sentez pas très à l'aise, vous ne vous sentez pas très détendu, ce n'est pas très facile. Chaque fois que nous allions en province, il y avait des manifestations organisées contre nous, rappelez-vous. Alors, on arrivait, il y avait des banderoles, des barrières de fer, on tenait les gens, ainsi de suite. Ben, on ne peut pas être... c'est vrai, du point de vue du contact, ça ne peut pas être très facile. Je crois que d'abord, la France est tout de même détendue à l'heure actuelle, que c'est moins vif. Moi, je le vois dans notre région d'Auvergne, les rapports sont faciles à l'heure actuelle. Je vois même au Parlement, je me souviens...
C'est un hommage au président Mitterrand, tout cela.
Aux Français.
Ah bon, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Il en fait partie.
Oui, d'accord. Il est même le premier des Français.
Il est même le premier des Français. Oui. Mais je veux dire, c'est une évolution de fond. Hein. Moi, je me souviens, quand j'ai été réélu, donc c'est 1984, je suis allé à l'Assemblée nationale. J'ai vu que personne de la majorité de l'opposition ne s'adressait la parole. Il y avait eu d'ailleurs je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un deuil. Le Premier ministre de l'époque avait perdu son père. Je me suis dit, je vais présenter mes condoléances, comme le moindre des choses. Hein. C'était considéré comme quelque chose de tout à fait inhabituel et contraire à la règle du jeu politique. Et à l'heure actuelle, je vois dans notre commission, où je préside une commission dans laquelle la majorité est tout de même la majorité actuelle, les rapports sont tout de même beaucoup plus faciles.
Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, avec la place que vous avez eue, vous bénéficiez un peu, je dirais, du désordre de l'opposition et que ce désordre vous séduit?
Me séduit?
Oui.
Ah non, pas du tout, alors.
Non, vraiment?
Non, pas du tout. Non, qui est de
la vie... Vous sortez du lot dans tout ça, quand même.
Ah bon, c'est ce que vous voulez dire, oui. Ah bon,
vous ne l'aviez pas compris?
Non, alors ça, c'est la théorie du... Quand il y a un peloton dans une course, qu'il y a la pagaille dans le peloton...
C'est ce qu'on appelle l'échappée.
Voilà, on fait une échappée.
L'échappée belle.
Non, je ne sais pas ce que je souhaite. Moi, je souhaite, si vous voulez, au contraire, que la France soit un pays dont la vie politique, tout de même, soit un peu plus claire, un peu plus ordonnée. Il ne faut pas exagérer, mais enfin, plus ordonnée. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays qui, au fond, a besoin de s'affirmer. Nous avons besoin de nous affirmer en Europe. Nous ne sommes pas les plus forts en Europe, contrairement à ce que nous croyons. Nous avons besoin de nous affirmer dans le monde. Vous avez vu qu'il y a eu donc cette réunion de l'OTAN à Bruxelles. C'est une grande affaire. Et moi, j'ai regardé la presse ce matin internationale. On ne parle pas de la France. On n'en parle pas. On connaît la position allemande. On connaît la position britannique. On connaît bien sûr la position américaine. Parle pas de la France. Donc la France a besoin de s'affirmer. Et si elle a une vie politique trop désordonnée, c'est difficile pour elle de s'affirmer. Donc moi, je suis pour l'existence de deux grandes formations de gouvernement. Une formation de gauche, une formation du centre et du centre droit, assez organisée, avec une liberté d'expression, de renouvellement, bien sûr, et qu'au fond, les Français choisissent entre elles. Et ça suffit pour assurer le pilotage et l'avenir de notre pays.
Valéry Giscard d'Estaing, pour quelles raisons pourriez-vous être un homme de gauche ?
Comment ça, je veux dire
bon. Vous devez sans doute quand même reconnaître des qualités à la gauche.
Elle a deux qualités. Elle a une... Elle a un idéal de générosité. Elle n'a pas beaucoup de générosité concrète, curieusement. Mais elle a un idéal de générosité, c'est vrai. Et elle parle avec facilité et authenticité.
Le privilège du cœur.
Oui, bon, ça existe. Je suis frappé du fait qu'elle ait au total peu de générosité concrète. Je prends un exemple. Bon, quand vous êtes au pouvoir, vous cherchez à deviner quelles sont les situations de détresse. Et vous cherchez à leur apporter un certain soulagement. Finalement, la gauche ne le fait pas beaucoup. Elle le fait un peu. Par exemple, elle a fait le revenu minimum d'insertion. C'est une mesure positive. Mais si vous prenez les catégories dont personne ne parle, ce serait le cas des handicapés, qui sont quand même des catégories extraordinairement fragilisées et souffrantes de notre société. Nous avons fait une loi en 1975. Vous vous souvenez, nous avons pris une avance. Nous étions le premier pays du monde pour l'aide aux handicapés. Depuis, ça n'est pas redevenu une grande cause. Donc il y a un langage, une attitude vraie de générosité, mais peu...
Si Michel Gilibert vous écoute, lui qui est handicapé à la charge, justement, oui. De tout ce monde-là, il ne sera pas très très content, parce que lui, il a l'impression de faire beaucoup.
Non, mais si vous regardez ce qui a été fait, vous apercevrez que ça a été la législation de 1975 et l'application qui en a été faite ensuite. La deuxième plus, je dirais, de la gauche, c'est... une certaine facilité à se montrer près des gens. Je ne dis pas être comme les gens, parce que, bon, il y a les mêmes différences, il ne faut pas se tromper dans le mode de vie, mais une certaine tout de même facilité à paraître proche des gens. Et c'est donc pour nous une leçon.
Alors, l'autre soir, lorsque vous étiez à l'heure de vérité, bon, on vous a forcément demandé comment tout cela allait se passer, surtout du côté de Simone Veil, parce que quand même, vous êtes tous les deux de l'opposition. Et puis, lorsqu'il s'est agi de votre propre liste, vous avez dit, parlant de Michel Barzac, « Je ferai pression sur elle ». Cela veut-il dire...
Moi, j'ai revu hier. Nous avons voyagé ensemble. Nous sommes allés dans le Nord ensemble. Elle ne m'a pas paru ressentir fortement cette pression.
Non, mais pression pour elle, sur elle, pour la garder.
Voilà, pour la garder, oui.
Et pour l'installer peut-être encore plus haut. Alors,
absolument.
Vous voudriez lui donner une plus grande place. Vous regrettez peut-être de ne pas l'avoir placée près de vous. Elle aurait pu être à la place d'Alain Juppé.
Non, la place d'Alain Juppé, il était important.
J'ai cru comprendre cela.
Oui, mais vous devinez trop de choses. Ouais, votre radioscopie...
Donc, je ne me suis pas tellement trompé.
Non, mais un petit peu, vous allez voir.
D'accord.
Non, il y avait deux choses dans cette élection. Il y avait un signe d'union.
Oui.
Bon, ce signe d'union, il fallait le donner clairement. Il fallait que tout le monde puisse le lire sans se compliquer la vie. Ça pouvait être la présence de Jacques Chirac sur la liste. Bon, nous en avons parlé ensemble longuement. Et nous sommes mis d'accord pour considérer que ça n'était pas la meilleure solution. Que ça apparaîtrait comme quelque chose de trop politique. Et finalement, vous savez qu'on a choisi autre chose. Il préside notre comité national de l'Union, mais il n'est pas sur la liste. Nous en avons parlé ensemble objectivement. Savoir si c'était mieux ou moins bien, il était dans un esprit de grande bonne volonté à cet égard. À partir du moment où ça n'était pas lui, pour manifester l'Union, il fallait prendre quelqu'un qui représente une position clé du RPR, c'est-à-dire le secrétaire général, donc Alain Juppé. Il y avait donc un motif tout à fait logique et simple. Et si ça ne s'était pas fait, si vous voulez, les gens n'auraient peut-être pas cru à l'Union. Parce que Michel Barzac est une personne qui a une grande présence, un grand talent. J'espère qu'on va la voir, d'ailleurs, sur les médias. En tout cas, on la verra sur les médias pendant notre campagne. Mais aux yeux de l'opinion, on la connaît parce qu'elle a été ministre de la Santé, parce qu'elle a pris des positions sur un certain nombre de problèmes de société, de vie sociale, mais pas comme représentant le RPR en tant que tel. Donc je crois que c'était normal de mettre Alain Juppé en numéro 2. Il fait d'ailleurs une très bonne campagne. J'apprécie beaucoup cette intervention. Et on a mis Michel Barzac aussitôt après, c'est-à-dire la deuxième place du RPR.
On va parler encore un tout petit peu de l'image. Je sais bien qu'on se trompe parfois lorsque quelqu'un vient sur l'étrange lucarne qui est la télévision, mais on a comme ça des impressions. Et lorsqu'on vous voit, on a vraiment le sentiment que vous avez l'impression de dominer le monde, que vous êtes au-dessus des autres.
J'espère bien que non.
Non, mais... Que vous le pensez? En tout cas, vous donnez l'impression que vous pouvez le penser. D'ailleurs, on en parlait hier encore avec des journalistes politiques, et l'un de ces journalistes, qui pourtant n'a pas tellement de tendresse pour vous, disait « Mais c'est normal, parce que c'est ça ».
Non, ça n'est pas vrai. Alors, vous voyez, démenti catégorique.
Alors, serait-ce de l'humilité, tout d'un coup?
Non, mais parce que c'est pas vrai. Vous me disiez tout à l'heure, il faut pouvoir dire ce qu'on est. Je vous ai dit, je suis blessé. Est-ce que je crois que je domine le monde ? Non. Non. Je m'intéresse au monde. C'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Bon, je lis tout ce qui paraît. J'essaie de me tenir informé. J'aime aller dans les autres pays. J'aime suivre les événements qui s'y déroulent. Je suis heureux de découvrir des peuples que je ne connaissais pas, d'apprendre leur langue, de voir comment ils vivent. Bon, ça, c'est un intérêt que j'apporte au monde. Mais c'est pas du tout une domination. D'ailleurs, quand on connaît le monde, on peut pas croire qu'on le domine. Parce qu'il est beaucoup trop vaste, il est beaucoup trop peuplé, il est beaucoup trop divers. Ça vous donne au contraire le sentiment d'une extraordinaire humilité, en fait. Pourquoi j'apprends le chinois, hein ?
Vous apprenez le chinois ?
Oui. Bon, mais pourquoi j'apprends
vous
le chinois ?
Vous le parlez un peu déjà ?
Oui. Oui, je vois bien ce que vous voulez me dire, mais...
Bah, dites-moi.
Bon, ben, je veux dire... Suessi Haniyu, Wonien Chung Venshu, voilà. C'est-à-dire, j'apprends le chinois, je lis des livres en langue mandarine.
Vous m'avez dit quelque chose ?
Oui,
quoi ?
C'était ça.
D'accord. Je me méfie un
peu. Je peux vous l'écrire si vous voulez, mais comme on était à la radio, j'espérais toujours qu'un jour, à un écran de télévision, on m'aurait dit bon, j'aurais écrit Tiananmen, enfin, pour au moment des événements, etc. Bon, pourquoi ? Mais c'est par exemple pour. Je me suis dit, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans un pays d'1,2 milliard d'habitants si on n'a pas une certaine notion de sa culture, de sa façon de s'exprimer, de communiquer entre eux, et ainsi de suite. Donc je m'intéresse au monde, je n'ai pas du tout le sentiment de le dominer.
Vous avez été un polytechnicien brillant. Je ne savais pas que cette école était faite pour la politique.
Il y a quelques cas, vous en avez même.
Non, mais lorsque vous êtes entré à Polytechnique, vous aviez déjà le souci de vous intéresser de très près à l'État.
Non.
Vous vouliez faire quoi ?
Je voulais être ingénieur des ponts et chaussées. Oui, je voulais construire des autoroutes. Alors j'ai repris mes vocations, parce qu'en Auvergne, il faut en construire.
Oui.
Seulement, on les fait construire par les autres. C'est pas moi qui suis capable de les construire. Donc quand j'étais à l'IX, d'abord j'ai beaucoup... Enfin, ma formation est scientifique, et je crois que si on peut avoir une formation scientifique dans le monde moderne, c'est très important. Parce qu'il y a tout de même un énorme aspect de technologie, de science, de mathématiques dans tout ce qui arrive. Par exemple, j'étais complètement coincé sur l'informatique. Et jusqu'en 1980, je n'y connaissais rien.
Maintenant, vous connaissez ?
Pas vraiment, mais j'ai suivi des stages 3 années de suite pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était, non pas que l'utilisation, mais que les machines elles-mêmes, leur conception, ainsi de suite. Eh bien, le fait d'avoir fait des études scientifiques avant m'a facilité les choses. Et je crois qu'il ne faut pas se sentir devant un univers qui est fermé culturellement. Si vous avez une certaine formation scientifique, vous pouvez ouvrir les portes. Vous n'avez pas l'expertise, bien sûr, mais vous sentez un peu à l'aise. Et vous avez toujours eu, dans la vie politique française, des polytechniciens qui ont joué un rôle.
Vous avez essayé de temps en temps de redessiner votre parcours. Admettons, vous êtes ingénieur des ponts et chaussées. Que devenez-vous dans la vie ?
Ingénieur en chef des ponts et chaussées.
Et après ingénieur en chef,
après
vous n'allez
retraite.
Pas vous arrêter là, vous.
Ben, si,
vous pensez à la retraite ?
Non, je pensais pas à la retraite, mais je vais me demander quelle est
vous
la carrière.
Avez dit retraite.
Oui, ensuite, ça aurait été la retraite. Mais mon idée, c'était, il faut dire, quand je faisais mes études, c'était après la guerre, et la France était démolie. Alors la chose qui vous paraissait la plus importante, c'était de la reconstruire. Et comme il fallait la reconstruire d'une façon moderne, on se disait, il faut apprendre comment reconstruire la France de façon moderne. Donc c'est ce qui m'intéressait à cette époque. Et puis, j'avais dans ma famille une tradition politique, en réalité, parce que plusieurs générations ont joué, d'une manière ou d'une autre, des rôles dans la vie politique ou parlementaire. Et au fond, c'est sur le terrain, c'est-à-dire en Auvergne, je me suis présenté la première fois à une élection en 1956. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris la voie politique.
À quel âge vous êtes-vous marié ?
Je n'ai jamais fait le calcul, mais ça
fait... Je crois que c'est 25 ans.
C'est 26 ans.
Oui, c'est une question importante, parce que je me demande si vous avez eu une jeunesse.
Mais naturellement, j'ai eu une jeunesse. C'est épouvantable, votre question. Épouvantable. Je n'aime que ma jeunesse.
Drôle, je ne l'ai pas remarqué, parce que vous n'en parlez jamais. Vous n'en parlez jamais. On ne sait rien de ce temps-là.
Attendez un peu. Attendez le tome 3, alors. Non, en réalité, si vous voulez, pour moi, d'abord, je suis quelqu'un qui a eu la chance, et je crois que c'est une chose qui vous marque toute sa vie, hein, d'avoir une enfance très heureuse.
Privilégiée.
C'est pas privilégié, parce que privilégié, ça a l'air de vouloir dire une situation matérielle. Les enfants heureux, c'est pas une situation matérielle, c'est une situation de famille. Et nous étions donc 5 enfants, à peu près du même âge, dans un environnement familial très chaleureux, si vous voulez. Et dans les années 30-40, c'est-à-dire, on voyait les grands événements, on ne les voyait pas venir. On était trop petits à cette époque. Donc, une enfance qui a été extrêmement heureuse et qui, pour moi, représente, au fond, cette idée que le bonheur, c'est l'enfance, en fait. Et puis la jeunesse, ben, c'était la guerre. Alors évidemment, c'était spécial. C'est pas une période où la distraction prend le pas sur les autres aspects de la vie. Mais c'était très, très extraordinaire parce que, bon, on est ici. Moi, j'ai connu Paris se libérant. Donc j'ai assisté à l'entrée des troupes américaines dans Paris, à l'arrivée du général de Gaulle. J'étais moi-même, ultra modeste dans les unités qui participaient à tout ça. Donc une vision, si vous voulez, quand on a 18 ans, ce qui était mon cas, enfin la libération de Paris, j'avais 17 ans, on voit des événements très forts et ça vous marque durablement.
On peut dire tout de même, Valéry Giscard d'Estaing,
que j'aime la distraction, c'est ça que vous voulez savoir.
C'est la question que je voulais poser tout à l'heure. Oui. Avez-vous des amis avec lesquels, par exemple, vous pouvez faire une grande sortie aujourd'hui encore? Mais des amis d'enfance.
Une sortie, c'est autre chose.
Parce une vraie que... sortie. Hein.
Passer une soirée...
Où on ne s'économise pas.
Comment? Non, mais bien sûr. Mais je veux dire, sortie, c'est difficile parce que moi, je vis sous surveillance.
Sous surveillance.
Voilà. Et vous enverriez vous-même des reporters de Radio France qui suivraient, qui arriveraient à 3 heures du matin pour dire voilà ce qui se passe, etc.
Alors peut-on vivre sous surveillance, alors?
On peut d'abord. On a moins à se cacher, enfin, sauf peut-être, moi, je ne vais pas parler de vous, bien sûr, mais on a moins à se cacher qu'on ne croit, généralement. Après, tous ses amis, ben, on les voit chez eux, on les voit chez soi, on les voit en fin de semaine. Mais j'ai des amis, si vous voulez, ce que j'aime, c'est l'insouciance. Dans les voyages, moi, ce que j'aime, c'est
Valéry Giscard d'Estaing, insouciant.
Oui, je suis totalement insouciant.
Ça fait un titre. Hein.
Oui, mais on ne cherche pas des titres, là. Non, je suis insouciant, et pour moi, le voyage, c'est le nomadisme et l'anonymat. Par exemple, pendant tout le jour, j'allais toujours faire des voyages aux États-Unis, ailleurs, j'allais dans des petits hôtels, on circule en auto, on connaît personne, etc. Pour moi, c'est ça. C'est pas du tout, au contraire, s'installer dans les endroits en vue, se faire reconnaître. Et heureusement, j'ai beaucoup d'amis. Donc, un côté de la vie très gai qui subsiste au travers de tous les événements.
On se pose la question parfois, lorsqu'on est ce que vous êtes, ai-je bien réussi ma vie? Je ne dis pas ma carrière. Ai-je bien réussi ma vie? Est-elle conforme vraiment à ce que je voulais dans mon adolescence? Me suis-je trompé?
Ah, c'est autre chose, ça.
Oui. Non.
Il y a les deux, si vous voulez. Bon, appartenant, étant un perfectionniste, est-ce que j'ai fait les choses comme j'aurais voulu les faire? Non. Est-ce que j'ai essayé de faire ce que je voulais faire? Oui. Alors voilà, je choisissais la réponse.
Alors, après 8 ans... vous avez pu écrire, vous avez pu réfléchir. Il y a, c'est vrai, ce dernier livre, Le pouvoir et la vie, je sais que vous écrivez encore. Mais si vous redeveniez un jour président de la République, et je le dis parce que vous avez affirmé l'autre soir que ceci finit, que jamais vous ne serez candidat à un tel poste. Si vous le redeveniez quand même, là, c'est dans le rêve le plus absolu, y a-t-il des choses que vous ne referiez jamais plus?
Bon, vous m'embarrassez, parce que si je vous réponds, on va dire « ça y est ».
Ça y est, oui, voilà. Il dit voilà, je ne ferai plus ça, donc venez vers moi.
Voilà, je mets dans votre hypothèse.
Voilà.
Bon, écoutez, hypothèse. Je ne participerai pratiquement plus aux cérémonies officielles. J'ai ressenti l'inutilité de tout l'appareil et de tout l'apparat de l'État.
Condamnation totale, obligé de participer.
Non, on peut en faire beaucoup moins. Et je trouve que la France commémore trop et ne fait pas assez. Et que nous consacrons beaucoup trop de temps à des choses qui sont de pure apparence, en réalité. Je ne voudrais pas même entrer dans le détail, mais que j'ai ressenti comme étant inutile. Et si j'exerçais une fonction de ce type, à l'heure actuelle, je me concentrerais sur l'utilité. Et l'utilité, c'est quoi, à l'heure actuelle, hein ? C'est, un, on retombe un peu sur l'affaire européenne, c'est faire que la France prenne des initiatives et les mène jusqu'au bout concernant l'Union de l'Europe. Et la deuxième chose, c'est que la France redevienne un espèce de pays de pointe au point de vue de son développement économique, intellectuel, culturel. Et au fond, il n'y a que ça qui m'intéresserait.
Vous referiez vos fameux dîners en ville?
Ah ben, naturellement, oui.
Ah bon?
Pourquoi les interrompre?
Vous les faites aujourd'hui?
Ben, bien sûr, oui.
Mais on n'en parle plus. Non, lorsque vous alliez surprendre une famille, vous arriviez au dernier moment, au moment du dîner, d'ailleurs vous étiez invité, toujours bien reçu.
Toujours bien reçu.
On mange bien en France? Vous avez été déçu de temps en temps?
Ah, pas du tout. Alors ce qui était formidable, c'était le soin, parce que c'était toujours fait par les personnes qui nous recevaient, bien sûr. Et alors ils avaient choisi eux-mêmes le menu, on avait discuté avec les amis, etc. Et c'était un mélange à la fois pour montrer ce qu'on savait faire et pour montrer ce qu'on croyait que j'avais envie de manger, ce qui n'était pas toujours nécessairement la même. même chose.
Alors, dans ce livre, Le pouvoir et la vie, où vous racontez votre septennat, il y a un épigraphe, une phrase de Franklin Roosevelt, et cette phrase, je voudrais la rappeler.
C'est pas Franklin, c'est Théodore.
Théodore Roosevelt, oui. Pardon. S'il échoue, qu'au moins il échoue à nos ans de grandes choses, de sorte que sa place ne soit jamais parmi ces âmes froides et timides qui ne connaissent ni la victoire, ni la défaite.
C'est une belle phrase. Hein.
Belle phrase.
Parce que Theodore Roosevelt...
Victoire, défaite.
Oui, mais justement, c'est une espèce de cercle. Mmh. Theodore Roosevelt a été président des États-Unis, comme vous vous souvenez, au début du siècle.
Et vous avez connu les deux, hein, la victoire et la défaite.
Justement, il avait connu la victoire et la défaite. Et il l'avait d'ailleurs très bien vécu, mieux que moi, à mon avis. Hein. Et ensuite, il a mené une vie assez curieuse, où il faisait des grands voyages. Il a parcouru l'Afrique. Alors, à ce moment-là, le mode de vie était assez spécial. Il avait un train spécial dans lequel il était. Il parcourait l'Afrique. Il a publié un livre qu'on trouve encore chez les bouquinistes sur ses voyages en Afrique. Il s'est beaucoup intéressé à la protection de la nature. Il a été le premier qui a fondé les grands parcs naturels américains. Et ceux qui vont dans le Yellowstone Park, par exemple, verront qu'il y a un petit bâtiment qui a été fondé par Theodore Roosevelt. Et les Américains ont gardé pour lui beaucoup d'affection. C'est un des présidents qui a compté, bien qu'il l'ait battu.
Lorsque vous écrivez, vous avez cette nécessité normale d'être lu. Vous avez été bien accompagné, vous êtes content de votre production littéraire, parce qu'il y a un autre écrivain, c'est François Mitterrand, qui est donné comme grand écrivain, oui. Comme grand humaniste, philosophe. Oui. Vous le reconnaissez comme
oui,
écrivain?
Tout à fait, oui.
Vous le reconnaissez comme adversaire également tout Vous avez fait. Lu tous ses livres?
Non.
Non. A-t-il lu les vôtres?
Oui, et il m'a envoyé...
Ah, vous êtes sûr de lui?
Enfin, tous les miens. Non, mais je veux dire, le dernier, je lui ai envoyé, puisque c'est le seul que... je lui ai envoyé les deux derniers. Il m'a envoyé un mot de remerciement, sur chacun de mes deux derniers livres. Et je dois dire, très intéressant. Bon, qui témoignait d'un intérêt à la fois pour l'écriture et pour le message, en tout cas ce que j'avais essayé d'exprimer. Donc, quand vous dites tous ces livres, parce que je n'ai pas nécessairement lu tous ces livres, j'ai lu ces livres principaux de la période récente.
Lorsqu'on est président de la République, on prend des notes au quotidien pour ensuite peut-être décider du grand livre qu'on écrira lorsqu'on sera dans une forme de tranquillité.
Moi, je ne l'ai pas fait.
Et vous le regrettez?
Non, je crois que malheureusement, on est tellement absorbé, si vous voulez, que si on voulait se consacrer à une demi-heure d'écriture par jour pour soi, on le prendrait sur sa fonction. Alors j'avais adopté une autre solution qui était d'avoir des archives extrêmement détaillées. Et il y a aux Archives nationales, elles sont plus à Paris, celles-là, elles sont en province, il y a un petit fascicule sur tous les jours de mon septennat. Ça remplit, je ne me rappelle plus combien, de centaines de mètres. Et tous ces petits fascicules sont annotés à la main par moi. C'est-à-dire que sur chacune des décisions qu'on me demandait, je mets quelque chose. Je mets oui, non, pas maintenant, ou bien il faudra le faire autrement, ou etc. Une petite annotation. Donc il y a une documentation complète qui appartient maintenant à l'État, parce que j'ai remis tous ces documents aux Archives nationales, et qui permet à tout le monde de savoir exactement ce qui s'est passé. Alors moi-même, d'ailleurs, je m'y reporte de temps en temps quand il y a quelque chose qui me manque, qu'il faut faire très attention à la mémoire. J'ai remarqué, par exemple, que la mémoire se souvient très bien des choses, mais pas nécessairement de l'ordre des choses. Parfois, elle inverse l'ordre. Et vous croyez qu'une chose est arrivée avant une autre, alors que c'est le contraire. Donc il faut se reporter tout de même très soigneusement aux chronologies.
Alors je regarde, j'observe, et je m'aperçois que vous êtes aujourd'hui très très bien accueilli. Ça vient de quoi? Parce que vous n'êtes plus aux affaires?
Oui. Oui.
Non, peut-être aussi parce que vous avez changé, que vous êtes peut-être vous également plus accueillant.
Comment voulez-vous que je dise des choses pareilles? Vous pouvez les dire. Je crois d'abord que les Français aiment ce qu'ils connaissent un peu. Parce que ce sont des gens qui ont une espèce de sens de la vie personnelle, de la vie de famille. Au fond, ils aiment bien reconnaître. Ça leur est agréable. Quand vous êtes à l'étranger, par exemple, et qu'ils vous reconnaissent, ils sont contents. Je me souviens, j'étais allé comme ministre des Finances, c'était en Roumanie, et j'étais donc ministre des Finances de la Ve République, de Gaulle. La Roumanie était un pays communiste. Et à ce moment-là, les seuls touristes qui allaient en Roumanie étaient envoyés par le Parti communiste français. Je suis allé dans un endroit qui s'appelle Brașov, en Roumanie, qui est une station un peu touristique. Nous arrivons, je t'accompagne des dirigeants roumains, et on voit tout à coup une cinquantaine de Français dans le hall de l'hôtel. Ils me voient, ils m'applaudissent, se précipitent, etc. Alors je me renseigne, on me dit, qu'est-ce ? Ben c'est la section du Parti communiste de, c'était une petite ville, de la Seine-Saint-Denis. Alors les dirigeants roumains étaient stupéfaits, mais comment les communistes français vous applaudissent ? Non, non, ils ne m'applaudissent pas, ils me reconnaissent. Et pour eux qui sont en Roumanie, le fait de trouver un des leurs, de pouvoir lui parler, de demander des nouvelles, etc., ça leur convient. Donc vous avez ça, les Français aiment reconnaître les leurs. Ensuite, je crois en effet que probablement le fait de ne plus être au pouvoir, et donc le fait de ne plus leur poser de problèmes, ce qui joue, et puis peut-être ce que vous disiez à la fin, mais vous en êtes meilleur juge que moi.
La politique, heureusement, n'est pas l'essentiel d'une vie. Alors par exemple, la musique peut bien vous accompagner. Vous allez au concert, vous allez à l'opéra.
Je vais au concert.
Je sais vous jouer de l'accordéon, mais ça ne suffit pas quand même.
Mais on ne fait pas injuste, là.
Non, mais j'aime l'accordéon, attention.
Et puis d'ailleurs, il y a beaucoup
j'aime
de...
J'aime l'accordéon. Oui,
méfiez-vous, là. Oui. Vous êtes un peu avancé.
Non.
Ben, je suis président d'un orchestre, mais pas... Enfin, qui est l'orchestre d'Auvergne. Nous avons un très bon orchestre régional, figurez-vous. Et au fond, ça m'intéresse beaucoup. C'est un orchestre à cordes, qui comprend 22 musiciens, et qui est du niveau européen, à l'heure actuelle. Et par exemple, samedi prochain, nous donnons un concert à la cathédrale de Clermont, comme ça, une fois par an, qui est très largement ouvert au public, et qui est tout à fait du niveau sommet au point de vue de la musique.
Vous avez été déçu par ce qui se passe à l'Opéra Bastille, ce qui s'est déroulé en tout cas. Vous étiez d'accord pour un monument comme celui-là. Il y a de beaux monuments en France maintenant. Vous voyez, nous sommes tout près ici, puisque nous sommes aux Tuileries, nous sommes tout près de la pyramide. On a dit tellement de choses sur cette pyramide. Lorsqu'on la regarde, là au Louvre, elle n'est pas du tout embarrassante. Et d'autre part, elle est d'un bel accueil. C'est fou ce qu'on a pu dire. Moi, le premier d'ailleurs, lorsque j'ai vu la maquette. Donc il faut attendre pour juger, vous ne pensez pas ?
Oui, et puis vous tournez le dos au musée d'Orsay, qui est derrière vous, qui est une des grandes et belles réalisations.
Non, en plus, très beau musée, avec de très belles œuvres du 19e siècle.
Oui, absolument.
La Grande Arche, qui est également un beau monument, le CNIT, cette défense qui va vivre. Et puis il y a aussi le littéraire, il y a les livres que vous avez peut-être sur votre table de chevet. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment sur votre table de chevet ?
Il y a un livre de Tournier qui m'a envoyé, qui s'appelle « L'amoureux médianoche ». Si
le médianoche amoureux,
voilà,
qui est un livre de contes et de nouvelles.
Oui, qui est assez intéressant parce qu'il reprend un peu le thème des conteurs, de l'Heptaméron ou du Décaméron. Et c'est des choses qu'on ne lit plus actuellement, qui sont très intéressantes. C'est la Renaissance. Et les gens se font des récits les uns aux autres. Par exemple, on imagine qu'ils sont isolés dans une petite auberge de montagne, ils sont enfermés par la neige, ils passent 10 jours, et ils se racontent des histoires. Et Bocas a écrit comme ça, Marguerite de Navarre a écrit comme ça, Marguerite de Valois, et maintenant ce livre que je trouve tout à fait remarquable.
Alors dans le livre de Michel Tournier, il y a beaucoup de nouvelles qui sont justement consacrées à la lassitude du couple.
Oui.
C'est une chose que vous n'avez jamais éprouvée.
Non. Non, mais c'est pour ça que je lis, justement.
Alors, vous êtes également, et cela m'a beaucoup amusé, chanoine d'honneur de Saint-Jean de Latran.
Oui, ça ne m'occupe pas à plein temps.
Ça impose quoi d'être chanoine d'honneur, surtout dans le civil ?
Mais le président Mitterrand est un autre chanoine d'honneur. Non, simplement, c'est des choses assez curieuses. Historiquement, vous savez d'abord qu'on est coprince d'Andorre. Oui. Vous devez le savoir, parce que vous êtes du sud-ouest.
Ça, je sais très
bien. Savez comment on l'est ?
Non, parce qu'on est président de la République.
Oui, mais pourquoi ?
Non, vous allez me le dire.
Oui, c'est une drôle d'histoire. C'est qu'il y a eu, à la fin du Moyen-Âge, une célèbre dispute concernant la principauté d'Andorre. Et finalement, elle a été partagée entre l'évêque d'Urgel, c'est-à-dire un évêque espagnol, et les comtes de Foix. Ces comtes de Foix se sont éteints, une famille qui est éteinte, et quand elle s'est éteinte, ils sont éteints dans la maison d'Albret. Les Albret étaient les parents d'Henri IV, comme on le sait, et ensuite c'est donc arrivé à la couronne de France. Donc les souverains français étaient coprinces d'Andorre. Et bizarrement, quand Napoléon a pris le pouvoir, il a repris la coprincipauté d'Andorre. Et depuis, on n'a jamais interrompu cette tradition, ce qui fait que tous les chefs d'État français successifs sont coprinces d'Andorre comme descendants des comtes de Foix. Et l'affaire de Saint-Jean de Latran, c'est un peu pareil. Vous savez que c'était une des basiliques romaines qui appartenait à la France, qui était protégé plus exactement par la France. Et le symbole de cette protection, c'est que dans le collège des chanoines qui administre Saint-Jean de Latran, il y avait le chef d'État ou le souverain français. Il faut voir d'ailleurs comme nous sommes devenus pingres. Parce que je me suis rendu à Saint-Jean de Latran, et alors tous les... C'est très beau, vous savez, vous connaissez cette basilique, qui est une des plus anciennes de Rome, et tous les souverains français, comme ils étaient chanoines, faisaient don d'une chapelle. Alors, vous avez une superbe chapelle du XVIIIe siècle, superbe chapelle du XVIIe siècle. Et moi, je me suis dit, ben, il faudrait faire quelque chose. Alors, je me suis renseigné, on m'a dit, nos crédits ne nous permettent pas de faire cela. Et hélas, nous sommes chanoines, mais nous ne laissons plus de traces.
Monsieur le chanoine, non, pardon, monsieur le président, il faut revenir quand même à l'actualité immédiate dans les 5 dernières minutes. Je me suis aperçu que Laurent Fabius vous bat au sondage. Pas de beaucoup, mais il vous bat.
Quel sondage, vous voulez dire?
Pour les européennes.
C'est très bien.
C'est une course. Mais vous croyez au sondage ou vous n'y croyez pas? C'est cela l'important. Remarquez, c'est un point, demi-point, point maintenant.
Oui, et puis on a communiqué un aujourd'hui qui paraîtra demain et qui nous donne 6 points d'avance. Vous voyez.
Mais vous n'y croirez toujours pas, non. Même lorsque vous aurez 6 points d'avance.
Non, parce que... Non, je veux dire pourquoi. Je crois qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce que les Français pensent à propos des élections européennes? Ils s'intéressent à l'Europe. Si vous leur parlez, comme ça, en petit groupe, ou vous leur parlez de l'Europe, ça les intéresse. Ils écoutent et ils veulent savoir si pour eux, ça sera un plus, une complication de vie, ça va changer leurs habitudes, va remettre en cause un peu leurs droits, etc. Donc ça les intéresse. Les élections européennes ne les intéressent pas. Les sondages portent sur les élections européennes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trop voté et que c'est encore loin. C'est dans 3 semaines, il fait chaud, c'est le printemps, il se passe beaucoup de choses. Et ils se disent, de toute façon, pourquoi nous déterminer maintenant? Nous nous déterminerons, à mon avis, entre le 10 et le 18 juin. Ce qui fait ce que nous faisons à l'heure actuelle, nous construisons le socle de leur choix. Il faut qu'au moment où ils choisissent, ils aient les éléments de ce choix. Mais ils n'ont pas, à mon avis, l'intention de choisir tout de suite. Donc les sondages donnent des indications, c'est pas du tout négligeable, mais attendons la fin.
Une chose m'inquiète beaucoup, c'est le fameux débat que vous aurez sur TF1 à 6.
On n'aura pas de débat.
Je l'ai déjà dit, j'ai l'impression que c'est guignol.
Pourquoi guignol? Non, parce que nous ne serons pas habillés de la même façon.
Comment vous voulez aussi mais... personnage? Oui. Ah, ça serait amusant. Ah non, alors ce serait ça, je suis d'accord. Alors nous avons, parce que vous savez qu'en ce moment, je remplace Marcel Julien, qui a pris une petite semaine à Écran Total, et nous avons donc proposé un débat à deux. D'ailleurs, Henri-François de Virieux était là, avec deux de vos adjoints, Alain Madelin et Sarkozy.
Sarkozy, qui sont les deux directeurs de campagne.
Voilà. Et nous avons dit un débat à deux, Laurent Fabius, Valéry Giscard d'Estaing, à la seule condition que vous donniez chacun 30 minutes de votre temps de parole par rapport à la loi. Laurent Fabius n'a pas encore répondu. Ça vous plairait?
Tout à fait. N'est-ce pas? Je crois qu'il faut faire attention dans tout ça. Il est tout à fait normal que ce qu'on appelle les petites listes, c'est par ailleurs des très petites listes, parce que beaucoup ont des score de l'ordre de 10%, ce ne sont pas les petites listes. Mais enfin, il est tout à fait normal qu'on ne donne pas le sentiment de vouloir écarter les petites listes du débat. C'est pourquoi j'approuve votre proposition. Si nous faisions un débat à deux, il faudrait déduire ce débat de notre temps de parole pour que les autres petites listes gardent le leur. Ça, j'approuve tout à fait. Par contre, la clarification est nécessaire. Parce que, vous l'avez vu, même peut-être à l'heure de vérité, dans les questions qu'on a posées, c'était intéressant de voir, quand on le dit, est-ce qu'il y a une différence entre l'approche socialiste et l'approche libérale, les gens disent non. Hein ? Ils disent non parce qu'ils ne la voient pas. Et s'ils ne la voient pas, c'est qu'on ne l'a pas expliqué. Alors comment voulez-vous demander à des personnes de choisir alors qu'on ne leur montre pas quelle est la différence du choix ? Et c'est pourquoi j'accepte votre proposition.
Valéry Giscard d'Estaing, je vous ai rencontré une seule fois, en 1974, à la veille des élections. D'ailleurs, je vous avais demandé, il y avait une petite phrase qui était passée, l'important n'est pas de monter, mais c'est de monter en restant soi. Je vous reçois à la veille des européennes. Je ne sais pas si vous voyez les voyantes. La première fois, c'était à la veille, vous avez été élu. Vous pensez que vous pourriez être élu cette fois-ci ?
À l'élection européenne ?
Oui.
Compte tenu du mode de scrutin,
j'ai très peu pour me répondre.
J'ai ma chance.